Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 16 janvier 2022. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le 16 janvier, l'anniversaire de la fuite historique du Shah déchu d'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. De ce journal, Iran-Chine, des relations de plus en plus larges. Sanctions américaines oppressives, la suspension du droit de vote de l'Iran aux Nations Unies. Et puis une base militaire américaine a été attaquée par une roquette dans la province orientale de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue chinois Wang Yi, lors d'une réunion vendredi, ont souligné la nécessité d'élargir la coopération mutuelle dans différents domaines. Le très haut diplomate iranien a déclaré que l'accord de coopération stratégique entre Téhéran et Pékin repose sur une approche gagnant-gagnant conforme aux intérêts des deux pays. Hossein Amir Abdollahian affirme que les relations entre l'Iran et la Chine se développent également dans tous les domaines. Il a fait ses commentaires après une rencontre avec son homologue chinois dans la ville de Wuxi vendredi. Amir Abdollahian a salué le rôle de la Chine dans les pourparlers en cours à Vienne pour la relance de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom du Plan global d'action conjoint PGAC. Il a déclaré que Pékin avait joué un rôle constructif en soutenant les droits nucléaires pacifiques de l'Iran et ses appels à la levée des sanctions de Washington contre Téhéran. L'Iran et la Chine ont signé l'année dernière un accord de coopération historique de 25 ans. L'accord vise à renforcer les liens économiques et politiques entre les deux pays. Sanctions américaines oppressives, la suspension du droit de vote de l'Iran aux Nations Unies. Les sanctions américaines unilatérales et oppressives contre l'Iran ont non seulement violé les droits de l'homme et ciblé la santé et la vie du peuple iranien, mais ont également conduit à la suspension du droit de vote de l'Iran à l'ONU. Au cours des deux dernières décennies, le nombre de sanctions américaines contre des gouvernements, des entreprises, des responsables d'autres pays a décuplé. L'ancien président américain Donald Trump a imposé le plus de sanctions aux autres pays. Donald Trump, avec le retrait unilatéral et illégal de l'accord sur le nucléaire iranien PGAC le 8 mai 2018, a rétabli ses sanctions secondaires contre l'Iran en deux temps. Les Nations Unies ont suspendu le droit de vote de l'Iran pour la deuxième fois cette année en raison du non-paiement des cotisations contre lequel la République islamique se bat en raison des sanctions américaines illégales sur les transferts de devises. Le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce fermement la suspension du droit de vote de l'Iran aux Nations Unies, soulignant que les sanctions cruelles des États-Unis ont provoqué la situation. Selon l'article 19 de la Charte des Nations Unies, un pays membre perd son droit de vote à l'Assemblée générale de l'ONU si le montant de ses arriérés atteint la contribution due par lui pour les 2 années complètes écoulées. Toutefois, l'Assemblée peut autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que ce manquement de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du dit membre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, déplorant la suspension du droit de vote de la République islamique d'Iran aux Nations Unies, a déclaré « Malheureusement, pour la 2e année consécutive et en raison des sanctions américaines oppressives et illégales, notre pays a des difficultés pour le paiement des cotisations à l'ONU liées aux frais d'adhésion à l'organisation. L'administration Trump a mis en œuvre une politique de pression maximale et a imposé des sanctions cruelles et inhumaine contre le peuple iranien, mais cette pression maximale a finalement échoué. La République islamique d'Iran n'a pas cédé à ces pressions avec autorité. » L'Iran réitère son soutien à l'intégrité territoriale en Syrie. Ali Asrar Khoji, haut adjoint du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, a déclaré samedi que l'Iran soutient les efforts des Nations Unies pour renforcer la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en Syrie. Khoji a fait ses remarques lors d'une réunion à Téhéran avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Ger Pedersen. Ce haut diplomate iranien a exprimé le soutien de l'Iran au pourparlers intra-syrien et à l'établissement de la paix et de la stabilité dans ce pays frère et ami. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des derniers développements de la crise syrienne ainsi que des discussions en commission sur la loi constitutionnelle du pays, la lutte contre les sanctions et l'envoi d'aide humanitaire au peuple syrien. L'envoyé de l'ONU, pour sa part, a apprécié les efforts de l'Iran dans la coopération avec les Nations Unies et dans les pourparlers d'Astana, ainsi que pour aider à rétablir la paix et la sécurité en Syrie. Une base militaire américaine a été attaquée par une roquette dans la province orientale de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Des sources locales affirment que plusieurs roquettes ont été tirées sur le champ pétrolifère d'Al-Omar pendant la nuit. Le terrain abrite l'une des bases militaires américaines en Syrie. Rien n'a filtré dans l'immédiat sur d'éventuelles victimes. L'attaque aurait provoqué des incendies qui ont été maîtrisés par les troupes américaines stationnées sur le sol syrien. Les forces américaines ont ensuite riposté, ouvrant le feu vers l'endroit d'où les roquettes avaient été lancées. Les drones américains ont également commencé à survoler le champ pétrolifère après la frappe. Damas considère les forces américaines présentes en Syrie comme des occupants et insiste sur le retrait immédiat de ces forces des territoires syriens. Le sentiment anti-américain s'est accru en Syrie et dans d'autres pays de la région suite aux interventions militaires et politiques meurtrières des États-Unis dans la région. Ces attaques sont majoritairement revendiquées par des groupes proches de la résistance. Le ministère palestinien des Affaires étrangères fustige le silence complice de la communauté internationale face aux atrocités israéliennes. Dans une déclaration, le ministère affirme que le mutisme observé par la communauté internationale sur les activités de colonisation israélienne et le processus de judaïsation dans la ville sainte d'Al-Rots est un mépris total pour la solution à 2 États. Il indique que les projets de colonisation sont essentiellement et systématiquement concentrés dans et autour de la ville d'Al-Rots Est. Une politique qui conduiront à terme à l'isolement des quartiers palestiniens dans la région. Pendant ce temps, les forces israéliennes ont arrêté plus de 100 Palestiniens lors des rassemblements anti-occupation dans la région de Negev. Les manifestations anti-israéliennes, reprises dans le Negev il y a 4 jours, ont été de nouveau réprimées par l'armée israélienne. Le silence de la communauté internationale a encouragé Israël dans ses crimes et dans son terrorisme d'État. Israël fait preuve d'un mépris total pour la vie d'innocents, déplorent les activistes des droits de l'homme, qui ne cessent d'appeler la communauté internationale à mettre fin à l'agression et à l'occupation. Pour eux, c'est la seule manière dont la paix et la sécurité pourront être établies dans la région. Au Liban, les mouvements de la résistance libanaise, Hezbollah et Damal, acceptent d'assister aux sessions du cabinet après un boycott de 3 mois au milieu de l'aggravation de la crise économique dans le pays. Dans une déclaration commune, ils ont souligné que la seule solution à la crise actuelle est d'avoir un gouvernement fort qui peut gagner la confiance de tous. Ils ont noté que le Liban est confronté à une crise économique et financière sans précédent, dont la principale manifestation est la dévaluation de la monnaie nationale et la forte baisse dans la fourniture des services de base aux citoyens. Les 10 mouvements ont refusé d'assister aux sessions du cabinet suite à leurs différends autour de l'enquête sur l'explosion meurtrière du 4 août 2020 au port de Beyrouth. Le Hezbollah et Amal ont également critiqué les actions illégales de l'enquêteur en chef dans l'affaire et ses violations de la loi, ses politisations et son manque de justice. Dans un communiqué conjoint, les partis dirigés par Hassan Nasrallah et Nabi Berri ont fait part samedi soir de leur volonté de revenir à la table du Conseil des ministres, refusant d'être injustement accusés de blocage. Ils ont toutefois conditionné la participation de leurs ministres aux réunions uniquement consacrées à l'approbation du projet de budget de l'État et aux discussions du plan de redressement économique. Enfin, les perspectives de réconciliation entre les États-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine restent sombres. Après les pourparlers bilatéraux à Genève, les États-Unis menacent maintenant la Russie de réponses rapides si elle envahit l'Ukraine. Selon le secrétaire d'État adjointe américaine, la porte d'une solution diplomatique est ouverte du côté de Washington, mais la Maison-Blanche prépare des réponses à tout type d'actions que la Russie pourrait entreprendre. Je n'ai pas l'intention de spéculer sur 18 scénarios différents. Je dirais simplement que notre décision et les négociations que nous menons avec nos partenaires portent sur la possibilité de faire de très gros dégâts de manière très rapide si la Russie, d'une manière ou d'une autre, franchit ce pas, a-t-elle souligné. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le 16 janvier, l'anniversaire de la fuite historique du Shah déchu d'Iran. Le 16 janvier, soit le 26 Day du calendrier iranien, c'est l'anniversaire de la fuite historique du Shah déchu d'Iran, une fuite qui assura la chute du régime du Shah et a mené à la victoire de la révolution islamique en Iran en moins d'un mois. Après avoir quitté le pays le 16 janvier 1979, Mohammad Reza Pahlavi s'est rendu en Égypte et fut officiellement accueilli par le président égyptien Anwar al-Sadat à Aswan. Ensuite, dès le 22 janvier, il passa un certain temps au Maroc comme invité du roi Hassan II, jusqu'à ce que les pressions du gouvernement révolutionnaire iranien et certaines considérations politiques du gouvernement marocain ne l'obligent à quitter le Maroc. Ainsi, le 30 mars 1979, il se dirigea vers le Bahamas avec un visa touristique. Après l'échec de ses efforts pour obtenir l'asile politique en Angleterre, il fut obligé de quitter les Bahamas le 10 juin et de se diriger vers le Mexique. Avec l'aggravation de sa maladie, le 22 octobre, il s'est rendu aux États-Unis et il fut hospitalisé à New York pour un traitement médical. Après avoir quitté l'hôpital et avec l'apogée de la crise des otages de l'ambassade américaine à Téhéran, Mohammad Reza Pahlavi a quitté les États-Unis et s'est rendu en Égypte. Peu de temps après son arrivée en Égypte, sa maladie s'est aggravée et les médecins ont sorti sa rate. Il mourut finalement au Caire le 27 juillet 1980, à l'âge de 61 ans, et son corps a été enterré dans la mosquée Al-Rifa'i à la suite d'une cérémonie officielle. Concomitamment à cette fuite d'importance historique, une immense célébration durant laquelle le peuple distribua des friandises s'étendit à travers les rues de tout le pays. Et au jour du 26 dès 1357, soit le 16 janvier 1979, fut dès lors considéré comme point capital dans l'histoire de la révolution islamique d'Iran.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 15 janvier 2022. À la tête d'une délégation politique de haut rang, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé en Chine à l'invitation officielle de son homologue chinois. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que des questions stratégiques étaient au menu des discussions avec les responsables chinois. Il a réaffirmé que l'approfondissement des relations avec les pays voisins et alliés constituait en effet le pilier de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Lors d'une rencontre avec son homologue chinois, Hossein Amir Abdollahian a souligné la détermination de la République islamique d'Iran à approfondir les liens avec Pékin dans le cadre du partenariat, de l'accord de partenariat stratégique de 25 ans signé en mars 2021 entre les deux pays. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite du chef de la diplomatie iranienne en Chine, l'importance de ce regard vers l'Est de la République islamique d'Iran à l'approche de la visite du président iranien en Russie et les répercussions, en effet, de cette visite sur les développements en Asie centrale et sur l'Union eurasienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À la tête d'une haute délégation politique, le ministre iranien des Affaires étrangères a débarqué vendredi à l'aube à Pékin. Hossein Amir Abdollahian et la délégation qui l'accompagne se sont entretenus avec les dirigeants chinois des relations politiques bilatérales et de la mise en application des accords économiques déjà conclus entre les deux pays. En visite à Pékin, à l'invitation officielle de son homologue chinois, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré ce dernier pour discuter du dernier statut du plan de coopération sino-iranien prévu pour 25 années. Dans ce droit fil, le magazine américain Foreign Policy rapporte que l'essor des relations entre l'Iran et la Chine constitue une menace sérieuse pour les intérêts des États-Unis, d'Israël et des pays arabes du Golfe Persique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian se rend en Chine vendredi pour approfondir le partenariat stratégique global que les deux pays ont signé l'année dernière. La coopération croissante en matière de sécurité sino-iranienne représente une menace sérieuse pour les principaux intérêts sécuritaires des États-Unis, d'Israël et des pays arabes du Golfe Persique, écrit le magazine. Foreign Policy continue que le partenariat stratégique de 25 années que Pékin et Téhéran signé en mars 2021 offre des avantages majeurs pour ces deux adversaires de Washington unis dans leur opposition aux États-Unis. Selon le magazine américain, en établissant des relations avec l'Iran, la Chine renforce sa présence au Moyen-Orient et sape les États-Unis. Et l'Iran, pour sa part, obtiendra des milliards de dollars d'investissements chinois dans l'énergie et les infrastructures, ce qui minera l'efficacité des sanctions américaines. Il s'agit du premier déplacement d'Amir Abdollahian en Chine après sa désignation en tant que ministre des Affaires étrangères. Le partenariat stratégique global sino-iranien est en effet une feuille de route qui trace les futures coopérations entre les deux pays. Le document a été élaboré dans l'esprit d'une recherche pour la région et le monde entier de la paix, de la stabilité et du développement. Il n'a nullement pour destinée une quelconque ingérence dans les affaires internes des autres pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue, et depuis Bruxelles avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique. M. Dupré, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Alors, je serai bref pour la première question. Quelle est l'importance de cette visite du chef de la diplomatie iranienne, sa première visite en effet en Chine, dans le contexte actuel des évolutions géopolitiques de la région, à la fois dans la région de l'Asie occidentale, mais aussi de l'Asie du Sud-Est?
Alors, quand il faut vraiment aujourd'hui se rendre compte de l'importance tout à fait stratégique de ces accords et de cette visite, puisqu'en fait cette visite concrétise et lance l'application de l'accord, elle montre clairement qu'il existe aujourd'hui une alternative à l'omniprésence américaine en Asie occidentale. Et donc il y a effectivement d'un côté une grande puissance régionale, l'Iran, qui s'allie avec la Chine, qui est en train de devenir au cours des prochaines années la première puissance mondiale. Ça, c'est vraiment un tournant pour l'Asie de l'Ouest. Et là, on voit clairement que la capacité d'injonction stratégique même des États-Unis est très très active dans la région. Elle l'était déjà depuis un certain nombre d'années. En témoigne notamment l'échec en Afghanistan, le fait que l'Algérie a réussi à rétablir une situation d'ordre public faisant alors grâce à l'OTAN et la Russie. Mais ici, véritablement, on joue sur quelque chose d'un autre niveau. Il y a un acte qui est l'acte qui n'est pas celui de la prise de contrôle, en tout cas de l'affirmation d'une intervention américaine dans la région au cours des 20 prochaines années. Évidemment, du côté de la Chine, il y a un autre bénéfice. Au moment où les États-Unis se montrent, et donc il suffit simplement de garder en mémoire la création de l'OCUS comme force militaire intégrée destinée à contrer la Chine, et aujourd'hui, la Chine qui les revendications de souveraineté sur le peuple de Chine méridionale, eh bien, il se trouve tout simplement qu'elle est capable, la Chine, Pékin est aujourd'hui capable de dire aux États-Unis, vous venez sur notre terrain, nous sommes capables, nous, de nous déplacer et de nous opposer à vous sur un autre terrain où vous croyez jusqu'à présent, de manière assez illusoire, complètement hégémonique. C'est véritablement, comme souvent dans l'histoire des États-Unis, l'Iran joue un rôle important, puisqu'en fait cet accord marque clairement un basculement géopolitique qui va mettre de plus en plus les États-Unis en position d'égalité stratégique avec la Chine, quand bien même Washington ne le désire pas. Mais l'histoire du temps humain ne se limite évidemment pas au seul desiderata de Washington.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, M. Dupré. On va tout de suite rejoindre à Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue. M. le professeur, bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous. Au cours de l'année dernière, M. le professeur, d'importants événements alors ont eu lieu. La signature de cet accord, de ce partenariat stratégique de 25 ans entre Pékin et Téhéran, l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai comme membre à part entière, le retrait américain d'Afghanistan, sans oublier bien entendu le fait que, alors depuis son entrée en fonction, le président Raisi a promis en effet un regard vers l'Est, et dans ce cadre, il va effectuer prochainement une visite en Russie. Et avant cette visite, alors, ce déplacement du chef de la diplomatie iranienne en Chine. Alors, dans quelle mesure, en effet, ces événements pourraient contribuer à une nouvelle phase d'unité dans la région d'Asie occidentale et au sein de l'organisation eurasienne?
Le choix même de cette visite en Chine, qui est un choix politique, politique, stratégique, avant le voyage en Russie, nous semble avoir une grande signification. Car il ne s'agit pas, c'est de l'Iran, disons, bien sûr, avec la Russie, des rapports amicaux. Mais il est certain que être pris entre deux puissances, comme puissance hostile ou personne, comme les États-Unis et la Russie, n'est pas sans inconvénient. Et il est donc excellent de mettre dans la balance, si je puis dire, la Chine, qui elle-même, disons, est en rapport avec la Russie, mais disons, a des intérêts particuliers. Ne s'y confond pas. Il y a même des j'étais en prison au matin, les étudiants de la Sorbonne me rappellent, il y avait, disons, un conflit ouvert entre la Russie et la Chine pour des questions diverses, mais disons qu'il était l'extrait. Cette phase a été dépassée à l'intérieur de ce camp qui était encore communiste, et aujourd'hui, la présence chinoise me semble, et cet accord nous semble être une garantie d'indépendance pour l'Iran même. C'est une garantie de stabilité. Il est certain, bien sûr, que l'Iran a contre les limites de Shanghai, comme l'organisation de Shanghai, comme l'a rappelé M. Dupré. Mais nous estimons que la Chine a ses intérêts propres. C'est-à-dire qu'elle pèse, disons, comme dans ce temps. Et je dirais même qu'elle semble plus près de l'Iran pour une raison, disons, proprement économique et stratégique, en particulier dans leur rapport, dans la fourniture de matières premières, etc. Et donc, de la part de la Chine, disons, qui a exploiter les ressources naturelles de l'Iran, et disons, en lui-même, je crois que la Chine peut jouer, comme elle a joué autrefois dans l'histoire, un rôle, justement, dans un problème. Vous savez, tout aujourd'hui, équilibré, nous sommes toujours dans une philosophie, heureusement, de rapport de force. Et il était évident que, en particulier face aux agressions de certains milieux internationaux comme Israël, par exemple, la Chine, quel est le rapport avec Israël, bien sûr, pour économique, mais financier, peut jouer aussi un rôle, disons, de contrepoids. Ceci, n'est pas sans importance, Iran. Car ce qui a bien sûr marqué votre pays, c'est ce blocus instable. Je dirais même que l'hostilité contre l'Iran est très profonde dans certains milieux américains. Je me demande pourquoi, je vais donner un titre que le discours d'adieu, M. Trump, aux affaires, il a déclaré que le général Martin, par exemple, dont nous avons parlé récemment, était un bouche tactinaire. Vous voyez, il n'a pas dit ça au moment de l'attentat. Il a dit ça, justement, quelques temps après, disons, lors de sa. Son départ. Donc, nous avons affaire véritablement à des gens qui sont aveugles, à des gens qui sont excités, peut-être par ces milieux dont je vais parler, à l'extérieur des États-Unis. Il est très bon que, justement, l'Iran diversifie, disons, ses alliés et ses deux alliés, que sont maintenant la Russie et la Chine, tous des alliés, mais ont chacun leur rapport de force. Et je trouve que, j'insiste aussi, que ce fait que il y a également des intérêts, des rivalités ou des concurrences entre la Russie et la Chine, ce qui n'est pas suffisamment de valeur, et surtout étendu pour une longue distance de temps, comme les 25 ou 30 ans. C'est une rivalité normale, comme cela arrive entre 13 États.
Merci infiniment, monsieur le professeur, pour ces précisions. Restez avec nous. Monsieur Dupré, alors, ces trois pays, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, ont un point commun, en commun, bien sûr, le fait qu'ils sont tous les trois victimes des sanctions américaines et des sanctions qui ont toujours été utilisées comme un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Dans quelle mesure l'approfondissement des liens entre cette alliance, les membres de cette alliance tripartite, pourrait d'une part, en effet, contribuer à relever le défi de l'unilatéralisme américain sur la scène internationale et d'autre part contrer les sanctions illégales des États-Unis.
En ce qui concerne le fait de contrer l'unilatéralisme des États-Unis, il va de soi que de grandes puissances, de grands pays avec de grands potentiels, comme bien sûr la Russie, la Chine et l'Iran, eh bien, le fait que ces trois pays se coordonnent davantage puissent bénéficier, créer un effet de contrepoids sur toute une série de théâtres stratégiques où les États-Unis sont très impliqués, eh bien évidemment, cela contribue à l'émergence d'un monde multipolaire dans lequel le principe de respect des souverainetés nationales sera évidemment davantage mis au centre de l'agenda politique qu'il l'est aujourd'hui. C'est un premier élément, je pense, qui est vraiment important. Alors, sur la portée même des sanctions des États-Unis, on observe dans le temps, vous avez raison d'insister sur le fait que la politique de sanctions à caractère économique constitue une manière dans laquelle, par laquelle les États-Unis portent clairement limiter la souveraineté des pays qui auraient tendance à vouloir exister. Et on observe d'autant que l'efficacité de ces mesures de sanctions, eh bien, elle diminue. Lorsque dans les années 60, le président Kennedy traite un blocus sur Cuba, les effets seront drastiques sur l'économie cubaine. Et on s'aperçoit qu'avec le confinement, cette politique de sanction est de moins en moins importante, puisque le développement industriel et technologique se diffuse davantage dans le monde. Et on peut penser que dans quelques années, suite à la montée en gamme en termes de valeur ajoutée et de contenu technologique des filières industrielles chinoises, eh bien, en fait, les sanctions des États-Unis seront complètement inopérantes, surtout à peu près inopérantes, puisque toute une série de biens industriels qui sont aujourd'hui, capitales notamment, qui sont aujourd'hui produits par des pays occidentaux, plus ou moins contrôlés malgré tout par les États-Unis, seront produits en Chine. Et donc, les États-Unis ne pourront plus opposer leur veto à l'exportation de ce type de biens qui est nécessaire au développement économique et technologique. Ce qui a suscité également des mouvements de paiement de plus en plus centrés, plus en plus libellés en yuan, qui est la monnaie de la Chine, ce qui veut dire que les banques chinoises, les grandes financières chinoises, ont de plus en plus la main sur des canaux de paiement, ce qui évidemment rend de moins en moins opérant, de moins en moins efficace, les mesures de sanctions des États-Unis sur les canaux de paiement qui eux les millions de dollars. Il y aura moins de nécessité d'opérer à partir de ces canaux de paiement et d'opérer des transactions financières en dollars. Le yuan prend pas une importance de plus en plus croissante avec le temps. Et on le fait d'ailleurs dans la composition des réserves de change aujourd'hui de la nation de Russie. Il y a de moins en moins de dollars dans, suite aux sanctions évidemment, dans les réserves de la banque de la Fédération de Russie. Et le yuan est en train de plus en plus de supplanter progressivement les devises occidentales. La Chine mise, la Russie, pardon, mise donc sur le développement industriel de la Chine. Au total, pour un pays comme l'Iran, des accords de coopération qui portent 400 milliards de dollars et une génération, c'est-à-dire 25 ans malgré tout, eh bien, c'est la garantie de sortir en réalité de l'étau et de l'étouffoir pour représenter depuis, c'est-à-dire depuis 1979, depuis la création de la République islamique d'Iran, eh bien, c'est la garantie de sortir de cet étouffoir qui a été mis en place par les États-Unis, comme chaque fois par le gouvernement s'est opposé à eux en s'appuyant sur ce qui est son bon droit, en réalité sa souveraineté nationale. Donc nous sommes ici véritablement présents, comme je le disais tout à l'heure, d'un basculement géostratégique important, puisque on voit clairement aujourd'hui que trois pays qui ont décidé de jouer la carte de leur souveraineté face à l'unilatéralisme américain, eh bien, ils se renforcent les uns les autres dans cette quête d'affirmation de leur indépendance. Et ça, c'est tout à fait capital, parce que ça signifie qu'on pourra, dans les livres d'histoire, dans une trentaine d'années, je ne serai peut-être plus là pour le voir, pour le lire, mais en tout cas, on dira que les accords stratégiques, les accords de coopération très profonds qui ont été conclus entre Téhéran et Pékin préfigurait quelque part le basculement vers un monde multipolaire.
Merci.
Et là, là, véritablement, on peut déjà dire que c'est l'histoire telle qu'elle est.
Merci, merci, monsieur Dupré.
Du mur de Berlin qui a changé, en fait. Voilà, excusez-moi.
Je vous en prie, merci infiniment. Une toute dernière question à monsieur le professeur Dortiguier. Monsieur le professeur, l'émergence de ce monde multipolaire à la lumière de la coopération étroite entre l'Iran, la Russie et la Chine, dans quelle mesure c'est alors l'apparition de ce monde multipolaire pourrait d'une part contribuer en effet à changer la donne au sein des instances internationales et d'autre part à favoriser en effet, les échanges économiques entre non seulement ces trois pays, mais aussi avec les autres pays du monde.
Un effet, c'est là, pour dire en bref, permettre à toute l'Europe de reprendre, disons, son essor, c'est-à-dire d'assumer le rôle de la jouer vis-à-vis de l'Iran, par exemple, et vis-à-vis de l'Asie, d'autres pays. Nous aurions, disons, je dis, bon, comme Européens, et M. Dupré ne contredira pas certainement, que l'Europe d'autres est une. Que l'Europe trouve là sa chance, justement. C'est l'Europe qui a même dicté ce monde unipolaire, ce monde unipolaire, ou alors un monde faussement, faussement divisé entre une Russie longtemps affaiblie et une Russie qui domine par, justement, le caractère de leur monnaie, selon les entreprises de Bretton Woods. Voici ce qu'on peut voir, disons, c'est un accord de partenariat sur un si long terme, c'est-à-dire, de 30 ans, mais également une voie de respiration de l'Europe, et elle-même sera alors beaucoup moins possible aux pressions américaines, aux pressions militaires.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, monsieur Xavier Dupré, économiste et analyste politique depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. La démonstration de force du gouvernement malien de transition. Démonstration de force du gouvernement de la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta au Mali. Vendredi, sur l'ensemble du territoire, la population est descendue en masse dans la rue pour manifester contre les sanctions de la CDAO. Dans la capitale Bamako et dans d'autres villes du Mali, des milliers de personnes portant les couleurs nationales rouge, jaune et vert se sont réunies pour un rassemblement organisé par le gouvernement de transition. Le Premier ministre par intérim en uniforme militaire s'est adressé à la foule dans un discours aux allures patriotiques et panafricaines. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui, a-t-il déclaré. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui, a-t-il précisé. Évoquant l'histoire de la résistance africaine contre les colonisateurs, le Premier ministre par intérim n'a pas omis de remercier la Chine et la Russie pour s'être opposés à l'embargo illégal et illégitime contre le peuple malien. La Russie et la Chine ont bloqué à l'ONU un texte de soutenant les sanctions de la CDAO contre le Mali. La Russie et la Chine ont bloqué mardi, selon des diplomates, l'adoption d'un texte du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant les sanctions décidées par la CDAO contre la junte au Mali, où une transition vers un pouvoir civil qui durerait 5 ans a été rejetée par la plupart des partenaires du pays. Proposé par la France, ce texte visait à obtenir une position unie du Conseil de sécurité à l'égard des militaires à la tête du Mali, qui ne prévoit plus d'élections le 27 février comme il s'y était initialement engagé. Lundi, la Russie avait réclamé de la compréhension à l'égard des autorités maliennes au lendemain des sanctions inédites, fermeture des frontières, mesures économiques et financières lourdes prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes déçus, a déclaré à des médias l'ambassadeur du Kenya à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité suivie de consultations à huis clos par ses 15 membres. Il a précisé que les pays africains, dans l'instance, outre le Kenya, le Gabon et le Ghana, avaient jugé le texte proposé relativement doux. Selon une source diplomatique, la déclaration se bornait à parler d'un soutien aux efforts de médiation de la CDAO. Dans une déclaration lue au nom des 3 membres africains du Conseil, l'ambassadeur du Kenya a défendu les sanctions de la CDAO qui visent à faire accélérer la transition au Mali et à revenir à un ordre constitutionnel et civil. La Zleka et des partenaires lancent un système de paiement transfrontalier pour stimuler le commerce intra-africain. Le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine Zleka, la Banque africaine d'import-export et d'autres partenaires ont lancé le système panafricain de paiement et de règlement dans le cadre d'une tentative visant à dynamiser le commerce intra-africain. Cette décision fait suite à l'expérimentation réussie du système dans les 6 pays de la zone monétaire ouest-africaine, à savoir le Ghana, le Nigeria, la Gambie, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. En lançant le système, le vice-président ghanéen a souligné que PAPS mettrait fin à la dépendance d'Afrique à l'égard de devises tierces pour payer les transactions sur le continent et contribuerait à dynamiser le commerce intra-africain pour stimuler l'industrialisation et favoriser une croissance économique durable et inclusive en Afrique. C'est une solution africaine à un problème africain. C'est la réalisation la plus pratique et la plus importante dans l'intégration du système de paiement sur le continent depuis l'indépendance de la domination coloniale. Nous n'avons jamais été aussi proches en tant que continent de la vision de l'émission d'une monnaie commune, a-t-il précisé encore. L'ex-président nigérian Obasanjo qualifie la foire internationale intra-africaine de catalyseur de commerce. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a estimé à Accra, la capitale du Ghana, que la foire internationale, la foire commerciale intra-africaine constituait un catalyseur de commerce sur le continent africain. Il a fait ses remarques lors de l'ouverture des inscriptions à la prochaine édition de la foire commerciale intra-africaine prévue en 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cet événement biennal est organisé par le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, et la Banque africaine d'import-export. L'IATFEB constitue un élément important de nos efforts pour corriger les erreurs du passé, effacer les frontières et construire des ponts pour nous aider à réaliser l'ambition de l'agenda de 2063 qui est de construire l'Afrique que nous voulons, a déclaré M. Obasanjo, qui a été président du conseil consultatif de l'IATFEB 2021 qui s'était tenu à Durban en Afrique du Sud. Ce n'était pas seulement une foire commerciale, mais également un événement transformateur et socio-économique et puissant qui a facilité l'intégration africaine sur la plateforme de commerce, a-t-il dit en parlant de cette édition 2021, ajoutant qu'elle s'était achevée sur la conclusion de plus de 42 milliards de dollars de contrats commerciaux et d'investissements. L'IATF de 2023 devrait permettre aux exposants de montrer leurs produits et services et de conclure différents accords qui pourraient changer le destin de l'Afrique, a-t-il souligné encore. Le golfe de Guinée a enregistré 34 incidents de piraterie maritime et de vol à main armée en 2021, soit une forte baisse par rapport aux 81 de 2020, a déclaré un organisme maritime mondial. Dans son rapport annuel sur la piraterie publié de jeudi, le Bureau maritime international BMI a attribué la baisse des incidents de piraterie à la présence accrue de navires de la marine internationale et à la coopération entre les autorités régionales. Le BMI salue les mesures énergiques prises par les marines internationales et les autorités régionales dans le golfe de Guinée qui semblent avoir contribué à la baisse du nombre d'incidents signalés et au maintien de la sécurité des équipages et du commerce, a déclaré Michael Rollett, directeur du BMI, dans le rapport. Toutefois, le golfe de Guinée reste le point chaud de la piraterie dans le monde. Le rapport invite les équipages et les navires qui naviguent dans ces eaux à faire preuve de prudence, car les auteurs de ces actes restent violents et le risque pour les équipages demeure élevé. La baisse des incidents de piraterie dans le golfe de Guinée a également contribué à la réduction globale des incidents signalés en 2021 dans le monde, indique le rapport, ajoutant qu'en 2021, le centre de signalement et des actes de piraterie du BMI avait recensé 132 incidents de piraterie et de vol à main armée contre des navires dans le monde, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 1994. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.